Radio Kapi.
Emaëlle Ndoufou, d'accord pour la recherche de la paix dans l'Ituri. Décision prise lundi à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire des leaders de ces deux communautés sous la facilitation de la société civile. Toutefois, elle dénonce le silence de la présidence de la République depuis la prise d'otage de certains membres de la task force. Tête à tête hier à Kinshasa, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la RDC, et son homologue Adama Barrow de la Gambie. Ce dernier est à Kinshasa depuis lundi. Au menu de leurs échanges, le développement du tourisme, du transport aérien, de l'énergie et des infrastructures. L'invité de ce matin, Muindo Nzangi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, il dit comprendre les inquiétudes des étudiants et soutient qu'il n'y a plus de raison pour les professeurs de continuer la grève puisque le gouvernement a pris en compte leur cahier des charges. Il réagit ainsi aux manifestations des étudiants qui réclament la reprise des cours. Madame, Messieurs, bonjour. Commençons par l'Ituri. Les leaders des communautés Lendu et Ema ont décidé d'aplanir leurs divergences et de conjuguer leurs efforts dans la recherche de la paix dans cette province en proie aux conflits armés depuis 2017. Dans une déclaration commune faite hier à Bunia, ils demandent à leurs membres de cesser de servir les intérêts de ceux qui profitent de cette situation d'insécurité. Par ailleurs, ils invitent le gouvernement à assumer sa responsabilité pour la restauration de l'autorité de l'État en Ituri. Aux groupes armées, ils leur demandent de prendre conscience de leurs actions contre les populations innocentes. Isaac Remoyope nous en dit plus.
Les leaders des deux communautés se sont réunis lundi dans une assemblée générale extraordinaire sous la facilitation de la coordination de la société civile. Les deux parties ont échangé sur la situation sécuritaire en Ituri, les problèmes de cohabitation pacifique et de fréquentation de leurs membres et aussi la question de la libération des otages de la délégation de la task force. Pour ces leaders, les responsabilités sont partagées dans la recherche des solutions aux problèmes de l'Ituri. Dans une déclaration commune faite ce mardi, ils ont demandé à leurs membres de cesser de servir les intérêts des autres qui profitent de cette situation d'insécurité pour les diviser, mais aussi de dénoncer les tireurs de ficelles dans les conflits armés en Ituri. Selon ces leaders, le gouvernement doit également s'assumer pour la sortie de la crise en Ituri. Ils ont dénoncé les silences de la présidence de la République depuis la prise d'otage de certains membres de la task force. Ils ont également demandé aux miliciens de la Côte d'Éco de prendre conscience de leurs actions, qu'il faut des Ituriens la risée des autres provinces et même de l'extérieur. La société civile de l'Ituri qui a initié cette démarche sollicite l'implication de toutes les communautés locales de s'investir pour les retours de la paix dans cette province. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Nord Kivu, les habitants de plusieurs entités du territoire de Lubero, victimes de l'activisme accru des groupes Mai Mai, ces derniers rançonnent, pillent et ravissent les biens des paisibles populations. La société civile locale qui s'en inquiète plaide pour l'accélération du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation en vue de permettre aux groupes armés prêts à déposer les armes à se rendre volontairement, surtout que d'autres groupes armés continuent à voir le jour. Les détails avec Florida Kahambu.
Le président de la coordination territoriale de la société civile de Lubero pense que ces miliciens déjà prêts à se rendre se disent déçus de la lenteur observée dans le programme DDRCS. Georges Katsongo indique que certains éléments Mai Mai qui s'étaient déjà rendus se sont de nouveau réorganisés dans plusieurs villages et d'autres ont vu les jours à partir des scissions des anciens groupes. Il ajoute que ces miliciens ont multiplié les exactions à l'endroit de la population. Dans le secteur de Bapéré, outre les exactions commises par les Mai Mai du groupe UPLC, ces derniers se sont transformés en OPJ à la place de la police. D'après la société civile de Bapéré, ils ont détenu, la semaine dernière, les chefs des localités de Maéa et son secrétaire durant près de 4 jours dans un dossier de vol sous prétexte que l'infraction a été commise dans la zone sous leur contrôle. Le brigadier en chef, Josaphat Kalakala, commandant de la police à Kambaou, indique qu'outre cette situation, ces Maïmaï interdisent aux agents préleveurs des taxes de faire leur travail sur l'axe Kambaou-Biloulou, où eux-mêmes perçoivent des taxes auprès des commerçants. Butembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Entre-temps, le tribunal militaire de garnison de Beni vient de condamner à des peines allant de 10 à 20 ans de servitude pénale principale 8 combattants ADF et leurs collaborateurs, ainsi que 4 miliciens Maïmaï. C'était au cours d'une audience d'hier à l'esplanade de la mairie de Beni. Ces personnes jugées par la justice militaire depuis quelques jours ont été reconnues coupables de participation au mouvement insurrectionnel des ADF et Maïmaï. Parmi les combattants ADF condamnés, 6 sont des nationalités congolaises, un du Rwanda et un du Kenya. Tous ont été arrêtés par les FARDC dans les zones de combat. Un chef de village du territoire de Beni, poursuivi par la justice pour collaboration avec les ADF, a été acquitté pour faits non établis. Nord Kivu toujours, la société civile de Mangina tire la sonnette d'alarme par rapport aux conditions de vie des déplacés de guerre dans cette partie du territoire de Beni. Ces déplacés avaient fui les dernières attaques du 16 février à Makeke et Makumo, des localités du territoire de Beni et de Mambasa en Ituri. À Mangina, les uns ont trouvé refuge dans des familles d'accueil, alors que les autres vivent dans des chantiers inachevés des particuliers sans aucune assistance. Le président de la société civile de Mangina demande à l'État d'agir au plus vite afin de venir en aide à ces déplacés. Muongozi Kakule Vunyati, président de la société civile de Mangina, joint par Marc Marofimbo.
Ils sont dans des familles d'accueil, donc sur le long de Mangina jusqu'à Kiatseba, les autres même sont à Beni. On est en train, disons, d'y travailler pour qu'on puisse avoir, disons, un nombre exact. Ce sont, disons, des familles d'accueil qui sont en train de les aider. Jusque-là, il n'y a pas encore une ONG humanitaire qui intervient, disons, à leur compte. Ils sont en train de vivre une vie pénible. C'est comme ça que les gens de bonne volonté sont en train de leur venir en aide, mais nous demandons donc le ministère des Affaires sociales et humanitaires d'agir le plus tôt possible parce que c'est dans leurs compétences.
Guerre en Ukraine. Des voix des Africains vivant dans ce pays s'élèvent pour dénoncer le mauvais traitement dont ils sont victimes dans leur tentative de quitter le territoire ukrainien pour trouver asile dans des pays limitrophes européens. La plupart dénoncent des actes de racisme et de rejet pour l'accès aux moyens de transport afin de quitter ce pays en guerre. À ce sujet justement, quelques États, représentations diplomatiques africaines et l'Union africaine appellent au respect des droits universels et conventions internationaux en période de guerre, reconnus à tout individu sans distinction. Christelle Boenga, un Congolais de la RDC vivant en Ukraine depuis 2009, salue néanmoins la solidarité de quelques Ukrainiens en dépit du manque de contact avec les officiels congolais. Il a été joint par nos confrères de France 24. On l'écoute.
La population ukrainienne s'est vraiment organisée et nous avons tous apprécié cela. À tous les 100 ou 200 mètres, il y a des volontaires qui ont amené des biens, de l'eau, de la nourriture pour enfants. Les volontaires sont là, ils sont en train de donner de la nourriture à tout le monde, de l'eau, du café, du lait et voire même des pampers pour bébés. Le peuple ukrainien vraiment s'est organisé afin que toutes les personnes qui quittent le pays ne puissent manquer de rien, qu'ils ne puissent pas quitter le pays affamés. Jusque-là, je n'ai pas été contacté par l'ambassade de la RDC et nous n'avons pas de représentation diplomatique en Ukraine. Et avec la Pologne, nous avons tenté de contacter, mais l'appel n'est pas passé. Et après plusieurs essais, nous avons décidé de prendre les choses en main tout seul et de nous diriger à la frontière.
De son côté, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, affirme qu'il suit la situation des Congolais vivant en Ukraine. Sur instruction du président Félix-Antoine Tshisekedi, je suis heure après heure la situation de nos compatriotes en Ukraine. Hier, j'ai reçu l'ambassadeur de Russie pour un couloir humanitaire, l'ambassadeur de Pologne pas encore car sa résidence est en Angola. La majorité des Congolais sont accueillis en Pologne pour un séjour d'un mois, a tweeté Christophe Lutundula. Il dit avoir échangé aussi avec des étudiants congolais vivant en Ukraine. Grâce à notre compatriote Serge Nyangi, je me suis entretenu cet après-midi, hier donc, avec les étudiants congolais et le recteur de l'université des Soumis en Ukraine. Les enfants se portent bien et leur sécurité est prise en charge par l'université, ajoute le ministre Christophe Lutundula. Le développement du tourisme, du transport aérien, de l'énergie et des infrastructures, ce sont là entre autres des questions abordées par Félix-Antoine Tshisekedi, président de la RDC, et son homologue Adama Barrow de la Gambie. Ce dernier séjourne à Kinshasa depuis le lundi 28 février. Le tête-à-tête entre les deux chefs d'État a eu lieu hier à Kinshasa. Je vous propose d'écouter le président Félix-Antoine Tshisekedi au micro de Paul Matendo Mayamba.
Nos entretiens ont porté sur les opportunités. Nous avons épinglé en priorité le tourisme. Nous avons également épinglé le transport. Le président Adama s'est dit très intéressé à développer les relations au niveau des transports aériens surtout, parce que entre la Gambie et la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de pays à traverser qui pourraient être en fait des points de passage. Nous avons également parlé d'énergie et du commerce du bois, qui serait aussi très intéressant pour la Gambie. Et bien entendu, comme partout en Afrique, le domaine des infrastructures aussi, parce que c'est ça qui va nous permettre de réaliser ce rêve que tout Africain a, celui d'intégrer l'Afrique par la réalisation de grandes infrastructures.
Clôture lundi à Kinshasa dans la soirée de la 12e conférence diplomatique. Près d'une centaine de recommandations ont été formulées en vue de moderniser la diplomatie congolaise et la rendre capable de booster le développement de la RDC. Parmi ces recommandations, plus de 60% d'entre elles concernent le secteur administratif, financier et technique. Il est notamment recommandé l'attribution du processus d'implémentation des passeports congolais à un autre opérateur étatique comme l'Hôtel des Monnaies. Les détails avec Michel Kifindangoy.
Sur le plan administratif, technique et financier, la 12e conférence diplomatique a recommandé la mise en application des dispositions obligeant l'obtention des visas par les étrangers dans les ambassades congolaises. Elle propose aussi l'attribution à l'Hôtel des Monnaies, par exemple, du processus d'implémentation des passeports biométriques congolais, ce en vue de respecter le caractère d'utilité publique rendu par le ministère des Affaires étrangères. Les conférenciers exigent également la formalisation par un acte juridique des activités de la Commission nationale d'octroi des visas d'entrée en RDC, composée des affaires étrangères, de l'ANR, de la DGM et des finances pour le volet recettes. Il y a également l'identification des immeubles du ministère des Affaires étrangères au pays et à l'étranger et la mise en location de ceux qui peuvent l'être, comme les immeubles à la Haye et à Lagos. L'obtention d'un traitement particulier pour les ambassadeurs et autres agents diplomatiques congolais est aussi parmi les recommandations. Tout ceci vise à adapter l'appareil diplomatique congolais aux grandes mutations du monde et à les réorienter vers les objectifs de développement.
Et puis, le député national Ntumba Tshabola Bintou demande au gouverneur du Kasaï-Oriental et aux responsables de la MIBA d'exécuter rapidement l'ordre du chef de l'État pour permettre à la société KFW de commencer les travaux de la centrale hydroélectrique de Tchala 2. L'élu de Katanda au Kasaï-Oriental a fait cette déclaration hier à Radio Kapi. Il rappelle qu'au Conseil des ministres du 3 décembre 2021, le président de la République avait autorisé la mise à la disposition par l'État congolais au profit de la SNEL, d'une partie de la concession où sont installées actuellement les centrales hydroélectriques propriétés de la MIBA. Selon lui, ce vaste projet va contribuer à la relance de l'économie de la province. On écoute le député national Ntumba Tshabola.
Nous demandons à tous les intervenants dans les dossiers en rapport avec l'octroi d'un certificat d'enregistrement de la centrale hydroélectrique de Tchala 2 KFW de finaliser sans délai ces dossiers conformément à la décision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prise au Conseil des ministres du 3 décembre 2022 pour la construction d'un barrage financé par KFW. Cet appel s'adresse principalement aux responsables de la MIBA à ne pas tergiverser et de s'exécuter sans délai, car la date butoir approche. Nous rappelons à tous les intervenants que ces dossiers datent d'il y a 7 ans, que depuis la prise de la décision par le Conseil des ministres, cela fera bientôt 3 mois. Vous n'avez pas droit à l'erreur, car toute la population du Kasaï-Oriental tient à la matérialisation de ce projet qui va certainement résoudre les problèmes récurrents de l'absence d'énergie électrique dans notre province, le décollage économique de notre province, la carence en eau potable, l'industrialisation, le développement de la province du Kasaï-Oriental dépend de ce projet pour sa matérialisation immédiate.
Parlons du Kasaï oriental, notez que 5 radios et télévisions émettant en Mbujimayi sont fermées depuis la semaine dernière par la DGRAD pour non-paiement de la déclaration préalable. Il s'agit de la radio-télévision Fraternité Buena Muntu, RTF-BM, du diocèse de Mbujimayi et de la radio du Tabernacle de Mbujimayi, de la Fondation Daniel Madimba, radio FDM, de la radio-télévision Sentinelle RTS, ainsi que la radio-télévision Lotus. La DGRAD exige à ces médias de payer une somme allant de 15 millions à 100 millions de francs congolais. Les responsables des médias de Mbujimayi se proposent de rencontrer le gouverneur intérimaire du Kasaï oriental pour solliciter la réouverture des médias mis sous scellés.
Actualité, Afrique Monde.
Un premier groupe de 106 étudiants tunisiens évacués d'Ukraine est arrivé mardi à Tunis à bord d'un avion militaire en provenance de Bucarest. Ils ont été accueillis à leur arrivée par des parents émus et visiblement soulagés après avoir connu plusieurs jours d'angoisse depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février. C'est un premier vol de rapatriement par avion militaire parti de Bucarest. Ils sont 106 étudiants et un bébé. Ils sont en bonne santé, a déclaré le ministre tunisien des Affaires étrangères venu les accueillir à l'aéroport. Selon lui, 480 autres étudiants tunisiens doivent être rapatriés dans les prochains jours à bord d'avions en provenance de Roumanie et de Pologne.
L'invité.
Vous le savez, les étudiants de plusieurs institutions universitaires publiques de la RDC ont organisé des manifestations lundi 28 février pour exiger la reprise des cours. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui dit comprendre les inquiétudes des étudiants, soutient qu'il n'y a plus de raison de continuer la grève des professeurs, étant donné que le gouvernement a pris en compte le cahier des charges présenté par les syndicats des professeurs. Le ministre Moïse Ndzangui s'entretient à ce sujet avec Guy Matetsongo.
Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour.
Les étudiants sont lassés, fatigués du fait que la grève des professeurs perdure et exige la reprise des cours. Ils l'ont exprimé lundi dernier à travers les manifestations qu'ils ont organisées dans certaines institutions universitaires de la RDC. Que répondez-vous aux étudiants, monsieur le ministre?
Moi, je crois que les étudiants ont raison, ça a trop duré. C'est depuis le 5 janvier que j'ai lancé l'année académique 2021-2022. Les professeurs, à travers les associations, et puis les chefs de travaux, les assistants et les personnels administratifs, ils ont aussitôt lancé une grève pour demander des discussions avec le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie. Nous avons eu affaire de négociations avec les représentants et nous sommes arrivés à des accords. D'abord avec les assistants, les chefs de travaux et le personnel administratif. Ils ont accepté le principe de lever de la grève, ce qui a été acté. Nous avons aussi travaillé avec les professeurs et ce 14 février, ils ont aussi signé avec nous un accord qui a abouti à l'acceptation du principe de la suspension de la grève. Donc, nous avons fait ce qui est de notre devoir. Il était convenu qu'après cette signature, il devrait faire une déclaration pour mettre fin à cette grève et que nous nous allions convoquer la commission paritaire. C'est le travail que nous sommes en train de faire. C'est pour cette raison-là que vous avez suivi hier. J'ai engagé un appel à tous les partenaires de pouvoir se surpasser pour que nous puissions commencer l'année. Il n'y a plus une raison qui puisse justifier à ce stade ici une quelconque grève. D'ailleurs, j'ai pu le souligner hier que dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur, même du public, ils ont déjà commencé. Donc, on n'avait pas la raison de continuer à faire la grève, d'autant plus que les établissements comme l'UNIKIN ou d'autres établissements à l'intérieur de la province ont déjà commencé. Et donc, il était de notre responsabilité de pouvoir demander à tous les partenaires de pouvoir reprendre le chemin de l'école. Bien sûr, il se peut qu'il y a des questions spécifiques qui doivent être réglées dans certains établissements. Ça, on est en train de travailler, mais globalement, il n'y a plus de raison de la continuité de la grève.
Vous dites qu'il n'y a plus de raison de la continuité de la grève et vous avez affirmé, n'est-ce pas, que les enseignants ont accepté les principes de la suspension de cette grève. Alors, comment expliquer le fait que la grève n'est toujours pas suspendue, hein? Les syndicalistes de l'enseignement supérieur universitaire ont affirmé que le blocage est plutôt le fait du gouvernement qui refuse mordicus de tenir compte de leurs revendications.
Non, mais j'aurais souhaité parler quand même avec quelqu'un qui poserait cette question-là. Le texte que nous avons signé notamment avec les professeurs d'université, c'est un texte qui a été proposé par les enseignants et nous ne l'avons pas amendé. Ça veut dire que nous avons tenu compte de ce qu'ils avaient comme revendication. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont signé librement ce texte. Tout ce que nous attendons, c'est qu'à l'instar de ce qu'ils ont déjà fait pour l'établissement, que tous les autres délégués qui sont là aussi les communiquent à leurs établissements pour qu'ils puissent mettre fin à cette grève. Sinon, nous, nous avons signé le document, nous avons accepté les revendications et nous nous sommes engagés à partir du mois d'avril de pouvoir commencer à tenir compte de ces revendications.
Parce que vous affirmez que tout a été fait. À votre avis, pourquoi les professeurs refusent de reprendre les cours?
Ce n'est pas à moi de répondre à cette question.
Monsieur le ministre, à quand la reprise des cours, hein? Les étudiants ainsi que les parents attendent cette réponse.
Nous avons été hier avec les représentants des associations de professeurs autour du Premier ministre et nous avons discuté de cette question. Ils nous ont rassuré que ce n'est qu'une question d'heure. Ils vont devoir faire un communiqué pour demander à ceux qui ne l'ont pas encore fait de reprendre les cours. Nous attendons. Nous espérons dans tous les cas que ça va se faire avant la fin de la semaine.
Donc les étudiants ainsi que les parents qui vous suivent peuvent espérer que lundi prochain, les cours vont effectivement reprendre dans toutes les institutions supérieures de la RDC.
En tout cas, nous le souhaitons et nous croyons que ça va se faire de cette manière-là. On doit le faire pour sauver notre année académique, on doit le faire pour sauver notre jeunesse. Étant donné que le gouvernement a accepté l'essentiel des recommandations des enseignants, je ne vois pas pourquoi la grève doit continuer.
Merci beaucoup, monsieur le ministre.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, répondait aux questions de Guy Matetsongo. C'est la fin de ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. Merci de nous avoir suivis.